Vous êtes sur RTL.
Ce sera à 19h. Pour l'instant, il est 18h. RTL Soir, tout de suite, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Je vous parlais hier soir du supplice chinois s'agissant des annonces gouvernementales sur le confinement, non-confinement, reconfinement, peut-être confinement. Vous en avez marre d'attendre ? Rassurez-vous, ce n'est donc pas fini, car ce soir même, la traditionnelle conférence de presse du jeudi 18h dont parlait Laurent Ruquier à l'instant, eh bien, va se faire attendre. Et c'est donc à partir de 19h que vous entendrez les annonces du Premier ministre. Annonce suivie d'une édition spéciale d'RTL Soir avec tous les spécialistes de la rédaction, avec toutes vos questions également que vous pourrez nous poser sur les réseaux sociaux et via l'appli RTL, mais aussi en nous appelant au 3210. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On déroule avec vous les titres de ce jeudi soir et revoilà l'AstraZeneca.
Un vaccin sûr et efficace, voilà ce que dit ce soir l'Agence européenne du médicament. Sauf coup de théâtre, le gouvernement français devrait lui emboîter le pas et autoriser la reprise des injections. Dans ce journal également, la réponse de Vladimir Poutine à Joe Biden, c'est celui qui dit qu'il est.
C'est vrai, hein, oui, c'est sérieux.
C'est vrai, c'est sérieux, c'est ce que dit le président russe à celui qui hier l'a traité de tueur. Et puis Didier Deschamps qui dévoile sa liste pour les 3 prochains matchs de l'équipe de France avec un grand retour, celui d'Ousmane Dembélé.
La météo Peggy Brown. Avec un grand retour, celui de la petite amélioration.
Oui, bonsoir Thomas. Et c'est vrai qu'il faudra juste attendre un petit peu parce que le matin, il y aura encore beaucoup de nuages.
Quelques gouttes, quelques flocons. Vous n'alliez pas nous livrer ça comme ça.
Eh ben non, mais bon, il faut quand même positiver. Les éclaircies vont arriver. Elles vont arriver par le nord et gagner les régions entre le sud-ouest, la Bretagne, le nord et les Ardennes. Ailleurs, un ciel plus variable avec de rares averses. Seule région où ça restera perturbé toute la journée, les Pyrénées avec de la pluie et pas mal de neige. Et la Corse, tout ça sous des températures fraîches avec ce petit vent de nord, des gelées dans l'est et des maximales comprises entre 6 et 13 degrés.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Allez, plus qu'une heure à patienter. Les quelques 18 millions d'habitants d'Île-de-France et des Hauts-de-France devraient enfin savoir ce qui les attend pour les prochaines semaines. Reconfinement strict ou juste la semaine, couvre-feu avancé ou au contraire reculé. On a tout entendu ou presque ces dernières heures. Bonsoir William Galibert.
Bonsoir.
À une heure de la conférence de presse de Jean Castex, quelles sont vos dernières infos? Qu'est-ce qui se profile?
Bon, vous pensiez que le président hésitait entre un confinement total ou un confinement le week-end? Ça sera ni l'un ni l'autre. Ah. Ou plutôt, un peu de l'un et un peu de l'autre. Une des pistes sérieuses pour l'Île-de-France et les Hauts-de-France, de nouvelles restrictions, 7 jours sur 7, avec de nouvelles fermetures de commerce, avec toujours un couvre-feu, mais tout de même des autorisations pour pouvoir souffler un peu, pour pouvoir prendre l'air plusieurs heures par jour. Bref, un reconfinement qui ne dirait pas tout à fait son nom.
Mais qu'en serait un peu un quand même, hein, vous
voilà.
Écoutez.
J'aimerais être plus précis, j'aimerais être plus affirmatif, mais pour être tout à fait transparent avec vous, c'est très, très, très confus. Ça va être du neuf. Ça va être du local, nous disait de manière très énigmatique il y a encore quelques minutes un conseiller de l'Élysée avec un talent certain pour nous rendre chèvres jusqu'au bout.
Et oui, jusqu'au bout, certains s'impatientent, on est nombreux à s'impatienter. Et William, ça agace aussi au plus haut sommet de l'État.
La vérité, c'est que la plupart des ministres ne sont pas mieux informés que les auditeurs de RTL. Je ne sais même pas si le Premier ministre lui-même est au courant, ironisait tout à l'heure un conseiller. Un autre s'agaçait franchement à vouloir faire trop subtil. On finit par ne rien y comprendre. Tout se fait dans la tête du chef. Drôle de méthode, conclut un autre membre de cabinet ministériel qui a été très agacé par la semaine que nous avons vécue et qui termine en disant « Il faut aussi qu'on arrête avec ce cirque des conférences de presse du jeudi ».
Et en tout cas, nous, on a choisi une ligne éditoriale claire. À 19h, vous saurez, mais pour l'instant, on ne sait pas. On est comme vous, on est dans le flou. Donc on ne va pas inventer des choses qui sont peut-être même pas encore complètement décidées. Merci à vous, William Galibert, du service politique de RTL. Amandine, une nouvelle fois, le dilemme, on l'a bien compris, hein, c'est la balance, le bon équilibre à trouver entre économique et sanitaire.
Et le sanitaire, c'est avec vous, Virginie Garin. Alors, tous les médecins le disent, plus on confine tôt, plus on sauve des vies. Combien aurait-on sauvé de vies si on avait confiné il y a 6 semaines, début février, comme beaucoup le demandaient?
Alors, avec un confinement strict qui aurait débuté le 1er février, on serait redescendu à 5000 cas de Covid par jour. C'est une modélisation qu'avait faite l'INSERM, l'Institut de Recherche Médicale, en se basant sur ce qui s'est passé au Royaume-Uni et en Irlande. Ensuite, la courbe serait repartie à la hausse à cause du variant anglais, mais on serait reparti avec 5 fois moins de cas, 5 fois moins de personnes à l'hôpital, une cinquantaine de décès par jour au lieu de 250 en ce moment. Ça aurait permis peut-être aux hôpitaux de tenir, de pouvoir accueillir tous les malades jusqu'à l'effet de la vaccination. Mais dire combien de vies auraient pu être sauvées, c'est impossible. Simplement un chiffre quand même, selon l'INSEE, il y a eu depuis janvier 15 000 décès en plus que l'an dernier à la même période en France. Une surmortalité qui aurait été supérieure sans couvre-feu et forcément plus faible avec un confinement.
Martial Liu, vous êtes-vous notre monsieur économie? Bonsoir.
Bonsoir.
Ne pas reconfiner, ça a permis d'économiser combien ?
Alors, si on regarde du côté des dépenses de l'État, un confinement strict comme il y a un an nous aurait coûté 22 milliards sur 6 semaines. On parle là de toutes les aides, fonds de solidarité, allègement de charges, chômage partiel. Avec le couvre-feu à 18h et la fermeture de quelques villes le week-end, ça coûte 9 milliards depuis 6 semaines, donc deux fois moins, hein, et une économie de 11 milliards. On parle là des dépenses de l'État, hein, parce qu'évidemment, si on fermait la région parisienne le week-end, ce serait beaucoup plus lourd, parce qu'elle rassemble à elle seule un tiers des commerces du pays, et le chiffre que je viens de vous donner ne comptabilise pas les pertes de chiffre d'affaires de magasins, ce qu'on appelle les recettes. Ça n'est pas encore totalement comptabilisé. Or, on sait que le week-end, ça représente 30 à 40% du chiffre d'affaires des magasins. C'est ce qu'ont perdu les commerçants de Nice ou de Dunkerque depuis un mois.
Bon, Martial, Virginie, vous restez avec nous hein, tout au long de ce RTL Soir pour commenter et décrypter les annonces du gouvernement qui sont prévues à partir de 19h. Je vous rappelle qu'après 19h, on répondra aussi à vos questions. Vous nous appelez au 3210, vous posez les questions sur l'appli RTL et sur les réseaux sociaux. Puis dans quelques minutes, c'est Éric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis, qui sera l'invité d'RTL Soir.
En attendant, ça s'agit du côté des professionnels du tourisme en Normandie. De nombreux franciliens envisagent d'aller se mettre ouvert au moins pour le week-end. Frédéric Veil, les gîtes notamment sont assaillis de coups de fil.
Oui, depuis quelques jours, beaucoup de franciliens se renseignent ou font des pré-réservations, que ce soit pour des gîtes, des meublés. Les secteurs les plus prisés sont la vallée de l'Eure, la périphérie de Rouen et la côte normande, comme nous le confirme Nicolas Le Floch, patron d'une conciergerie spécialisée dans la location.
On voit bien quand même qu'on a des demandes de réservation de manière exponentielle depuis à peu près 10 jours. Je pense que les gens attendent encore les décisions du gouvernement aussi qui vont arriver. Et en fonction de la décision, s'il y a un confinement que le week-end, on pense que on va avoir une forte demande, et d'ailleurs on a déjà renforcé nous l'équipe pour pouvoir justement répondre voilà, à l'attente de chaque voyageur. Et puis malheureusement, on pense en tout cas que si un confinement total est mis en place sur l'île de France, par contre on sait que là on va retourner sur des situations qu'on a déjà connues, où clairement il n'y aura plus aucune demande et derrière les gens vont annuler, je pense, très rapidement derrière. Si vous voulez, quand on est confiné et les écoles sont ouvertes, les gens restent sur la région parisienne et les gens ne viennent pas en région Normandie. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs au mois de novembre. Hein.
Mais pour l'heure, les loueurs comme les centrales de réservation sont prêtes. Elles n'attendent plus que les décisions gouvernementales.
Ce sera donc à 19h à suivre en direct sur RTL. C'était Frédéric Veil sur le front de la vaccination. À présent, médecins et pharmaciens vont pouvoir reprendre du service, sans doute dès demain. Bonsoir Agathe Landais.
Bonsoir.
L'Agence européenne du médicament a en effet donné son feu vert au vaccin AstraZeneca.
Oui, mais avant que nos soignants puissent reprendre les injections, on rappelle qu'on attend également ce soir le feu vert de Jean Castex. A priori, aucun suspense, hein, puisque le gouvernement avait promis de suivre l'avis de l'Agence européenne du médicament. La conférence de presse s'est donc tenue tout à l'heure et l'agence continue de valider le vaccin AstraZeneca. Emer Cook, la directrice de l'EMA, a tenu à rassurer les Européens.
This is a safe and effective vaccine. Ce vaccin est sûr et efficace. Le bénéfice et sa protection contre le Covid-19 dépassent les risques d'effets secondaires. Le comité conclut également qu'il n'est pas associé à un risque plus élevé de thrombose et de caillots sanguins.
L'agence recommande tout de même de modifier la notice du vaccin pour mentionner aux professionnels de santé ces très rares cas d'effets secondaires, de développer des thromboses. Elle promet aussi de continuer à surveiller de très près ce vaccin comme tous les autres.
Merci à vous, Agathe Landé. On marque une pause entre Joe Biden et Vladimir Poutine. On en est donc très sérieusement à... C'est celui qui dit qui est. Alors nous, on va faire tarte à gueule, mais après la récré. Hein. On fait la pause et on vous raconte tout ça.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
18h10, la suite du journal avec vous, Amandine Bégaud. Et donc Vladimir Poutine qui a répondu aux attaques de Joe Biden.
Oui, bon, on s'en souvient, hier le président américain n'avait pas hésité à traiter son homologue russe de tueur. Et bien voilà ce soir sa réponse.
C'est celui qui dit qu'il est. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas qu'un adage, une plaisanterie d'enfant.
C'est celui qui dit qu'il est. Bonsoir Christophe Decroix.
Bonsoir.
À première vue, tout ça fait un peu diplomatie de cours d'école. Dans les faits, le ton monte dangereusement, hein, même entre Américains et Russes, et ça va au-delà.
Oui, aujourd'hui, ce sont les pays du G7, c'est-à-dire les 7 pays les plus riches de la planète, dont la France, qui emboîtent le pas à Joe Biden avec une déclaration très offensive contre la Russie. Quasiment 7 ans, jour pour jour, après le début du conflit en Ukraine, les ministres des Affaires étrangères réaffirment que la Crimée, c'est l'Ukraine. Ils dénoncent une annexion illégitime et illégale par la Russie, qui a, je cite, « ouvertement violé le droit international ». Ils condamnent donc Moscou, qui a fait usage de la force, viole les droits de l'homme et continue de déstabiliser viser l'Ukraine, notamment dans les régions de l'Est. Le G7 affirme ouvertement que les Russes appuient des groupes armés dans ce conflit qui a déjà fait plus de 13 000 morts. Un ton très inhabituel. Il faut dire que les griefs s'accumulent. Il y a l'Ukraine, mais il y a aussi l'attitude de la Russie en Syrie, les ingérences russes dans les élections américaines, l'empoisonnement et l'emprisonnement de l'opposant Navalny. Biden a donné le ton, le G7 suit. Ça a de petits relents de guerre froide, mais il faudra bien faire retomber la pression si on veut reparler de la limitation des armes nucléaires, de l'Iran ou même du dérèglement climatique.
Christophe Decroix du chef du service étranger de RTL, et ces discussions pourraient arriver vite, hein, puisqu'à l'instant Vladimir Poutine propose justement à Joe Biden une discussion diffusée en direct vendredi ou lundi.
Ça aurait de l'allure, ça.
À suivre.
Ça ferait de l'audience. Comment ?
J'y crois moyen.
Ah, on verra bien. Une petite info qui tombe à l'instant, là, qui est étonnante. Un char de l'armée italienne a effectué par erreur un tir d'entraînement sur un élevage de poulets dans le nord-est du pays, tuant de nombreux volatiles. Le monde va mal, Christophe Decroix, hein, chef du service
national. Vous
avez du boulot pour longtemps. 18h12, Amandine Bégaud, on revient en France et on va à Blois.
L'adolescente de 15 ans, grièvement blessée avant-hier dans l'accident de voiture à l'origine de très violentes émeutes, est décédée. C'est ce qu'a annoncé le procureur de la République. La préfecture, elle annonce ce soir le maintien du dispositif de maintien de l'ordre déployé hier. Pas moins de 300 policiers et gendarmes envoyés en renfort. Du foot,
oui.
Avec Didier Deschamps qui a dévoilé tout à l'heure sa liste pour les 3 prochains matchs de l'équipe de France. Match face à l'Ukraine, au Kazakhstan et à la Bosnie. 3 matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde au Qatar. Et Ousmane Dembélé fait son grand retour. Il n'avait plus joué avec les Bleus depuis novembre 2018 en raison essentiellement de nombreuses blessures.
C'est encore un jeune joueur. Il a commencé très tôt. Il était à Rennes, il a fait Dortmund, il est au Barça. On ne peut pas dire qu'il n'a pas une carrière pour le moment de haut niveau. Évidemment, il a été énormément freiné par la répétition de blessures, des interventions assez lourdes. Il faut qu'il gagne petit à petit en maturité, qu'il soit épargné par les blessures. Après, ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, il le faisait déjà il y a plusieurs années. C'est pour ça qu'il faisait partie du groupe champion du monde aussi. Après, évidemment, comme tous, quand ils sont là, ils veulent être dans le 11 de départ, mais vu la configuration qui nous attend avec ces 3 matchs rapprochés, il y aura beaucoup de joueurs qui seront concernés par les 3 matchs.
Didier Deschamps, micro RTL de Philippe Sanfourche.
Et la bonne nouvelle alors ?
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et plus que jamais, ça va vous intéresser. Je vous ai trouvé la solution pour s'évader. Pas mal, hein, quand on parle reconfinement.
C'est où, c'est quoi, quel aéroport ?
Flight Simulator, le jeu vidéo du confinement, un simulateur de vol. Il a reçu hier le César du meilleur jeu vidéo, un jeu 100% bordelais, Denis Grandjean.
Oui, pendant de longs mois, 130 personnes, toutes basées à Bordeaux, ont participé à la conception minutieuse de ce jeu. Martial Bossard, un des fondateurs du studio Asobo.
Nous faisons une modélisation, une jumelle digitale de la Terre. Il y a la gestion de la lumière, il y a la gestion de la météo, il y a la gestion de la végétation, des bâtiments, tout ce qui fait que la Terre est belle.
Mais avant, bien sûr, il faut décoller. Flight Simulator a été testé par des pilotes chevronnés. Un jeu, selon ses créateurs, idéal pour voyager loin en ces temps incertains, sans quitter son salon.
Une fenêtre ouverte sur le monde, pouvoir profiter de la Terre et de la beauté de la Terre et de voler au-dessus des quatre coins du monde. Vous trouverez même des vidéos sur YouTube où les personnes font des longs vols.
Un jeu saisissant de réalisme selon les spécialistes, avec des discussions bien sûr entre vous et la tour de contrôle. Enfin, dernier détail, Amandine, qui laisse penser que nous sommes vraiment sur un simulateur et non pas dans la vraie vie. Une phrase, une petite phrase que les voyageurs n'imaginent jamais arriver jusqu'à leurs oreilles. Enfin, croisons les doigts.
Je suis sûr, j'ai dû oublier un truc.
Effectivement, heureusement que ça n'arrive pas dans la vraie vie. Denis Grandjean pour ce reportage. Alors les Césars des jeux vidéo, ça s'appelle les Pégases. Thomas, la cérémonie, je vous le disais, a eu lieu hier en présence de Roselyne Bachelot et tout s'est beaucoup mieux passé que pour les Césars du cinéma.
Moi je suis à Tetris, hein, excusez-moi.
Okay, bon, vous êtes resté loin, vous. Allez.
Ah ouais, je suis moderne. Merci beaucoup, Amandine. À tout à l'heure. Il est élu de Seine-Saint-Denis, le député de la France Insoumise, Éric Coquerel, est l'invité d'RTL Soir. Il est comme nous tous, hein. Il attend de savoir à quelle sauce son département va être mangé.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
Il est député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Éric Coquerel est l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Éric Coquerel.
Bonjour.
Est-ce que vous savez, vous, ce qui attend votre département, la Seine-Saint-Denis et plus largement l'Île-de-France ?
Non, je suis comme vous, je regarde les rumeurs, les bruits, les informations. Donc je ne sais pas ce qui nous attend. Ouais. Je suis inquiet, pour tout vous dire.
Qu'est-ce qui vous inquiète le plus ?
Ce qui m'inquiète, alors la situation m'inquiète aujourd'hui, ouais, évidemment. Le nombre de contaminations, surtout que notre département a un triste privilège. il a le record de surmortalité due au Covid. Sur pleine commune, c'est plus 182%, alors même qu'on a une population jeune. Et en même temps, c'est uniquement 4,9% de la population qui est vaccinée, contre 8% en moyenne.
Ça, c'est aussi parce que la population est jeune, pour le coup.
Oui, mais ça, c'est pas un bon critère. Mmh. C'est une des erreurs qui est commise. Parce que quand vous avez une population jeune, mais qui est contrainte à aller travailler, il y a très peu de télétravail en Seine-Saint-Denis, donc qui est susceptible d'attraper le Covid de manière plus facile que quelqu'un qui est au télétravail ou qui ne travaille pas, vous ne regardez pas seulement l'âge. Vous regardez, j'allais dire, le risque de contamination. Et le risque de contamination est justement très grand en Seine-Saint-Denis.
Donc là, vous dites qu'il faudrait changer les critères de vaccination,
bien sûr,
alors.
Bien sûr, ouais. C'est évident. Il faudrait faire en sorte que... Alors déjà, il faudrait des vaccins. Où en est la production de vaccins que nous avait annoncé Emmanuel Macron chez Sanofi ou autre? Où en est le fait de s'ouvrir à tous les types de vaccins? Je pense aux vaccins russes, mais aussi de produire un vaccin
ça,
en France.
C'est le vaccin russe, par exemple, il y a des études en ce moment à l'Agence européenne du médicament pour voir s'il sera validé.
Ça fait un bout de temps, on l'attend. On s'est beaucoup pressé pour les autres vaccins. On voit aujourd'hui qu'on a des inquiétudes sur un d'entre eux. Et bizarrement, là, ça réduit. Mais je ne voudrais pas centrer uniquement sur la question du vaccin russe. Je pense que ça fait longtemps qu'on devrait produire des vaccins. Monsieur Macron l'a annoncé à quelques mois, il avait dit qu'il réquisitionnerait des usines de Sanofi pour le faire. Donc c'est le problème de l'accès libre au vaccin.
C'est ce qu'ils vont faire, mais ça sera d'ici le mois de juin-juillet, oui, le temps de tout mettre en place.
Toujours. Fois que peut-être que le Covid ne sera plus là, j'espère, peut-être qu'on y arrivera. Enfin, là, il y a un retard. Mais après, une fois qu'on a parlé du problème du vaccin, qui est évidemment central, parce qu'il faut vacciner, et je vous l'ai dit, en Seine-Saint-Denis, il y a un manque. Le deuxième manque qu'il y a, c'est le nombre de lits. Qui est vrai en Île-de-France. Vous savez qu'en janvier 2020, il y avait 1200 lits de réanimation en Île-de-France. Vous savez combien il y en a aujourd'hui ? 1200. On n'a pas augmenté un seul lit de réanimation. Et en Seine-Saint-Denis, c'est particulièrement vrai. Moi, j'étais à l'hôpital de La Fontaine, qui est un des hôpitaux de Saint-Denis, qui dessert, entre guillemets, avec Bichat, ma circonscription. Pendant la première vague du Covid, rendez-vous compte que l'hôpital a été à 100% dédié au Covid. Il y avait des soignants qui, théoriquement, normalement, accueillent la pédiatrie, qui se sont retrouvés avec des personnes âgées en soins palliatifs. Vous vous rendez compte de ce que ça donne. Et on recommence la même chose. Mmh. Donc moi, je vais vous dire...
Mais pour créer des lits, il faut du personnel.
Mais pour créer du lit, il faut du personnel. Mais alors, j'ai cru comprendre que le gouvernement estimait que, pour l'instant, du fait que la contamination n'est pas la même partout, il y a peut-être du personnel disponible, puisqu'on n'en a pas embauché, qu'on n'a pas fait l'effort d'embaucher, disponible dans les régions. Donc, au lieu d'envoyer des lits, des personnes sur des lits en réquisitionnant des TGV dans les choses qui sont coûteuses, longues, les familles n'en veulent pas.
Et qui ne fonctionnent pas bien,
visiblement. Voilà. Faisons venir du personnel. Ouvrons des lits en Île-de-France.
Vous dites, c'est ça l'urgence aujourd'hui? Oui, il faut ouvrir des lits et faire venir du personnel
des autres régions. C'est la première urgence. Ouais. Il y a des hôpitaux qui sont disponibles pour ça. Il y a de la place à Bondy. Il y a de la place à l'Hôtel Dieu pour peu qu'on le réouvre. Mmh. Et même à un peu plus long terme, on pourrait réfléchir, parce que l'épidémie, on n'a pas terminé, à réouvrir au moins dans l'urgence le Val-de-Grâce, de façon à mettre des lits provisoires, du personnel qu'on amène. Ça, c'est la première chose à faire en toute urgence. Permettre qu'il y ait des lits en plus. La deuxième chose que moi je préconise, c'est de permettre d'isoler les personnes malades. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en Seine-Saint-Denis, j'ai posé la question au préfet, combien il y a eu de moyens donnés à des personnes malades de s'isoler? 50 hébergement depuis le début du Covid.
C'est-à-dire qu'en gros, on les sort de leur foyer, on les isole pour pas qu'elles contaminent tout le monde.
On le fait pas automatiquement, ouais. On leur propose. Aujourd'hui, la situation, enfin, on reconnaît qu'on se contamine dans les lieux de travail. Vous savez, il y a quelques temps, on nous a dit ah non. Donc, on sait qu'on se contamine dans les lieux de travail et que l'Île-de-France a la particularité d'avoir beaucoup de gens qui vont travailler, notamment dans des espaces partagés. Et après, on le donne aux familles. Donc, si on n'arrête pas le travail, j'ai cru comprendre que ce n'était pas la piste du gouvernement, si on n'arrête pas le travail, il faut faire en sorte, au moins, que les gens qui sont atteints ne contaminent pas plus leur famille. Mmh. Moi, par exemple, j'ai eu le Covid. Bon, moi, il se trouve que j'ai eu la chance de pouvoir disposer à un moment donné, j'ai quelqu'un de ma famille qui n'était pas là, j'ai été isolé par rapport au reste de ma famille. Le bilan, c'est que ça a été à peu près correct au niveau de la contamination. Il faut pouvoir le faire. Taïwan l'a fait. Et c'est une des raisons de leur réussite. Et je pense que ce serait bien plus efficace que je ne sais quel confinement, qui est très mauvais d'un
vous
point de vue social.
Vous êtes contre tout confinement ?
Les confinements qui se préparent, là, oui. Oui, ouais. Je vous explique pourquoi. Le confinement qui éventuellement a de l'effet, c'est le confinement type première vague.
C'est on arrête tout. On ferme les magasins.
À mon avis, c'est très dur à vivre pour le pays, très insupportable. Mais au moins, celui-là, on sait. C'est pas ce que je préconise. Hein. De toute façon, le gouvernement n'en veut pas. Mais
même avec la situation qui est celle en Île-de-France, 101% de taux d'incidence, de tension hospitalière. Dans le 93, c'est 128%.
Oui, mais je vous ai. Mais bien sûr.
Même donc là, il ne faudrait pas un confinement strict comme la première
strict,
fois.
Mais ce n'est pas ce que le gouvernement s'apprête à faire.
Mais c'est ce que vous souhaiteriez, vous.
Je pense que la solution que nous donnons depuis quelques temps avec France Insoumise, une organisation de la société en roulement, Jean-Luc Mélenchon l'a proposé, de façon à ce que tout le monde n'aille pas en même temps au travail, tout le monde n'aille pas en même temps les lieux de culture, tout le monde n'aille pas en même temps en classe, ça serait déjà la base de tout. Deuxièmement, permettent aux malades de s'isoler. Et troisièmement, parce que c'est pour ça qu'on confine, c'est pas pour arrêter l'épidémie, c'est pour que les hôpitaux puissent...
C'est ça, justement, c'est pour soulager les hôpitaux.
Voilà, il faut ouvrir des lits en urgence. On aurait dû le faire depuis un an. Il faut les ouvrir en urgence et puis arrêter avec cette stratégie, parce que ça, ça va durer des mois, de ce qu'on appelle le flux tendu. C'est-à-dire qu'on n'a pas ouvert plus de lits en Île-de-France depuis 15 ans, alors que la population a augmenté, elle a vieilli, en pensant qu'il faut absolument rentabiliser les lits. Eh ben non, il faut supporter que dans des périodes de creux, il y ait des lits qui ne soient pas utilisés, pour que dans des périodes tendues, on ait le nombre de lits nécessaires.
Éric Coquerel, compte tenu de la situation telle qu'elle est à l'instant T, qu'est-ce que vous attendez des annonces de Jean Castex ce soir ?
J'espère qu'il n'y aura pas de... Alors, je vous le dis très clairement, j'espère que ce que j'ai cru comprendre, c'est-à-dire des confinements, soit 7 jours sur 7, soit le week-end, où on réduit les sorties des gens, alors qu'on sait qu'à l'extérieur, on attrape moins le Covid qu'en restant chez soi avec des gens qu'on voit, par exemple. Ou on fera en sorte de limiter encore les rapports sociaux, sauf le travail. Je pense que le rapport, entre guillemets, entre ce que ça va rapporter au niveau sanitaire, mais ce que ça va coûter d'un point de vue social, psychologique pour les populations, n'est pas bon.
Mais voilà, je crois que c'est pas ça la solution. Parce que la situation, les hôpitaux sont surchargés.
Je vous l'ai dit, ouvrons les lits tout de suite.
Tout de suite, on va
aller chercher
du personnel.
Voilà. Là, aujourd'hui, il y a eu, depuis hier, il y a eu moins 16 cas de réanimation sur les 20 en France, constatés en Île-de-France. Peut-être, j'osais l'espérer, peut-être qu'avec le vaccin, on va peut-être atteindre un palier. Donc ce palier, là, c'est clair qu'il manque des lits, donc il faut les réouvrir. Je vous ai donné trois solutions, et les hôpitaux, je ne les invente pas. Hein. Ça vient notamment des urgentistes qui ont repéré les lieux, à Bondy et de la place. Hôtel Dieu, on peut le faire. Et je vous dis, pour un peu plus long terme, rouvrons Val-de-Grâce. On fait venir du personnel et ça permettra peut-être de passer le cap et isolons les malades.
Donc ça, c'est la mesure d'urgence que vous proposez. Je veux juste revenir sur la vaccination parce que c'est intéressant. Vous dites qu'il faut vacciner les salariés de ce qu'on appelle de première ligne, de deuxième ligne. Il faut que le gouvernement change ses critères.
Ah bah, clairement.
Même avec des doses qui sont insuffisantes pour tout le monde.
Mais écoutez, chacun comprendra. Vous êtes avec un département comme l'Île-de-France, comme le Seine-Saint-Denis, pardon, plus 182% de cas de morbidité. Si vous voulez que la contamination fléchisse, il faut faire en sorte de vacciner ces gens qui sont plus facilement contaminés. C'est évident. Donc, bon, on sait qu'on n'est pas bon en termes de vaccins. On n'a pas été bon. Quand je dis on, c'est le gouvernement, parce que chacun prend ses responsabilités. Mais là, au moins maintenant, il faut vacciner en priorité des endroits où on se contamine beaucoup. Il y a, par exemple...
Donc, par lieu, par catégorie socio-professionnelle, oui, et pas forcément par âge.
Oui,
pas que par âge.
Âge, il le faut, bien évidemment. Il faut continuer les vaccins des gens qui ont un risque de morbidité importante. Ça, c'est évident. Mais après, dans les deuxièmes urgences, c'est les gens qui sont les plus susceptibles, malgré les gestes de protection, d'attraper le Covid, donc c'est les gens qui vont travailler, donc c'est les gens qui prennent les transports en commun et de faire en sorte de montage, parce que sinon c'est mauvais pour tout le monde.
Éric Coquerel, il y a quelques jours, à propos de vaccins, dans une interview que vous aviez accordée à nos confrères de France 2, vous disiez qu'à choisir, vous préféreriez être vacciné par un Pfizer que par un AstraZeneca. Là, l'AstraZeneca revient sur le marché. Vous avez confiance ou pas?
Écoutez, vous savez d'où ça m'est venu? C'est parce que les soignants ne voulaient pas se faire vacciner. Ils redoutaient deux choses, des problèmes de réaction importantes, et on voit bien qu'il y en a quand même. Et puis deuxième chose, on parle un peu moins, c'est que les vaccins de type AstraZeneca, il y a des problèmes éventuellement de mix de vaccins chez une personne qui pourrait créer un autre virus, de mix de virus qui pourrait créer un autre virus. Bon, je mets ça de côté, c'est un vrai problème, mais je mets ça de côté. Mais en attendant...
En tout cas, l'Agence européenne du médicament a dit qu'il était sûr.
Il est sûr. Je serais plutôt... J'aimerais qu'on ouvre sur d'autres formes de vaccins, pour tout vous dire, et que comme ça permette d'avoir le choix. Je pense que c'est...
Vous, si demain, on vous dit on a un AstraZeneca pour toi, vous y allez ou pas?
Moi, j'ai eu le Covid. Je ne fais pas partie des personnes urgentes, d'accord? Peut-être que si je suis dans une des personnes qui est dans une situation d'urgence, j'irai quand même le faire, pour tout vous dire. Mais très franchement, je pense qu'après, encore une fois, ce qui a été fait, je crois qu'il y a pas mal de gens qui vont être inquiets. Donc, il est urgent de permettre qu'il y ait d'autres types de vaccins, Johnson, par exemple, qui arrivent, ou encore une fois, vaccin russe, vaccin cubain, enfin, tout ce qu'on peut avoir sur le marché, de façon justement à rassurer les gens.
Merci beaucoup Éric Coquerel d'être venu ce soir dans RTL Soir. À suivre l'œil de Philippe Cavrivière. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Alors, vous êtes comme nous tous, vous attendez la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex à 19h que vous pourrez suivre en direct dans RTL Soir. Je sais que vous êtes un peu notre Madame Irma de l'information. Selon vous, quelle est la tendance?
Écoutez, je pense Thomas qu'on va nous annoncer des mesures supplémentaires pour nous annoncer des trucs qu'on pourra faire en moins, en fait. Il ne nous reste plus grand-chose, hein. On ne va pas se mentir. Si vous voulez une image, on est dans la peau d'un unijambiste qui se tord la cheville. Il sait que les prochains jours vont être compliqués.
L'image médicale est assez précise.
C'est médical.
Merci Philippe, on vous retrouve juste après le rappel des titres pour que vous puissiez nous développer tout ça, hein, professeur Cavrivière.
Je vous en prie.
RTL Soir. RTL.
18h30.
RTL Soir avec Thomas Soto.
Et Amandine Bégaud pour le rappel des titres.
Et plus qu'une petite demi-heure à patienter pour les quelques 18 millions d'habitants d'Île-de-France et des Hauts-de-France. Hein, ils devraient enfin savoir ce qui les attend pour les prochaines semaines. Reconfinement strict ou non, seulement le week-end ou pas. On saura ça à 19h. Conférence de presse de Jean Castex. Ce sera bien sûr à suivre en direct sur RTL. Le Premier ministre très attendu aussi sur le front de la vaccination. L'Agence européenne du médicament a rendu ce soir son avis sur le vaccin AstraZeneca. Vaccin sûr et efficace, hein, dit-elle. L'Italie annonce à l'instant qu'elle reprendra la vaccination dès demain.
La météo Peggy pour demain, ça, c'est un petit peu mieux, oui, ça progresse, il y a plus de soleil.
Exactement, surtout l'après-midi. En attendant, le ciel sera souvent nuageux le matin avec quelques petites averses de pluie ou de neige en montagne. Mais ça va bien se dégager entre les Landes, la Bretagne, l'Île-de-France jusqu'à la frontière belge. Ailleurs, un ciel variable avec trois gouttes possibles, mais il restera tout de même deux zones perturbées toute la journée, les Pyrénées avec de la pluie et pas mal de neige dès 500 mètres et la Corse où ce sera instable. Et côté température, quelques gelées demain matin et des maximales fraîches sous un vent de nord comprises entre 6 et 13 degrés.
Merci Peggy. 18h31, nous sommes jeudi, l'œil de Philippe Cavrivière s'ouvre, c'est l'heure à laquelle il se réveille en général, 18h31 Philippe. Jean Castex et Olivier Véran vont donc s'exprimer à 19h dans une petite demi-heure. Alors déjà c'est nouveau cette conférence, ouais, de presse à 19h au lieu de 18h, j'imagine que vous ça vous arrange plutôt pour votre chronique.
Oui, du coup, effectivement, hein, Thomas, la conférence de presse a été repoussée à 19h. Je ne peux pas tout vous dire, mais voilà, j'ai le bras long. je connais des gens. J'ai le 06 de, voilà, j'ai le 06 de Brigitte. Ah. J'ai pas les 8 chiffres derrière, mais j'ai... Bref, j'ai quand même réussi à reculer la conférence de presse de Hugolin. Hugolin de Castex. On dirait un nom de cheval. Joue Hugolin de Castex dans la quatrième. Alors, bref, parlons politique.
Oui, s'il vous plaît.
Claude François disait le lundi au soleil, oui, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais. Quel con ce Claude. Bah, le samedi et le dimanche non plus, vu qu'on sera confinés dans 20 minutes. Suis l'actu, Claude, au lieu de chanter des conneries.
Bon, attention, Philippe, pour l'instant, parce que quand même, vous savez que les gens vous écoutent et vous croient, malheureusement. Il n'y a rien de sûr. Le confinement week-end en Ile-de-France reculerait peut-être pour laisser la place à un confinement hybride ou peut-être, voilà, autre chose.
Enfin, le gouvernement hésite, oui, confinement week-end, confinement semaine, confinement hybride. Nous aussi, on hésite, dépression week-end, dépression semaine, dépression hybride, on ne sait pas quoi prendre. Attention, et puis ne critiquons pas Jean Castex, il a des qualités, il est champion de France de ni oui ni non, ça fait 72 heures que les journalistes de BFM essaient de le coincer, Monsieur Castex. Alors, y a-t-il, oui ou non, reconfinement? On y réfléchit, toutes les options sont sur la table, ça fait partie des possibilités, rien n'est écarté, ce n'est pas tabou. Alors, pourquoi une si longue attente depuis lundi, depuis les doutes sur ce vaccin AstraZeneca? Le gouvernement attendait bien sûr l'analyse scientifique sur le vaccin de McFly et Carlito, enfin du professeur McFly et du docteur Carlito.
Bon, alors ça dit, il est possible que l'Île-de-France échappe au reconfinement, sauf si c'est le contraire.
Ouais.
Mais ce qui a mis en colère le Sud et en particulier le maire de Nice, Christian Estrosi.
Vous l'avez entendu? Ben, mon département, il est confiné, pas le vôtre, c'est pas juste. Mais t'as quel âge, Christian? Ben oui, c'est comme ça. Peut-être parce que dans notre département, la moyenne d'âge, elle n'est pas de 115 ans. Alors, j'ai entendu que les restaurateurs redoutaient les nouvelles mesures de Castex. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Que des restaurateurs râlent, ça veut dire qu'il y en a encore deux ou trois encore en vie. Mais on a tous le fameux copain qui a vu un gars, qui a vu un restaurateur en vie.
Oui, c'est sûr.
Mais enfin, on n'y croit pas. C'est une légende, à mon avis.
Alors, en province, on dénonce un deux poids, deux mesures dans les restrictions. Pourquoi, selon vous, cher politologue Philippe, oui, Cavrivière, pourquoi cette différence de traitement?
Alors, pourquoi doit-on éviter le reconfinement en Ile-de-France? Tout simplement parce que nous, les Parisiennes de souche, les titis de Fréjus, nous sommes le poumon économique de la France. Alors que les plouques, les crasseux de province, ils en foutent pas une.
Oh.
On se demande à quoi ils servent à pas faire des barbecues sur les ronds-points.
Tout doux, Jolly Jumper, on a beaucoup d'auditeurs en province, hein, vous savez.
Ben oui, forcément, je viens de vous l'expliquer, ils ont que ça à foutre de nous écouter, ils en foutent pas une. Ils se réveillent à peine à 18h30. Allez, poursuivons entre gens alphabétisés, s'il vous plaît, Thomas.
Bon, on vient donc de perdre les régions. Cette semaine, Jean Castex a annoncé qu'il allait se faire vacciner, lui, avec du AstraZeneca pour rassurer les Français.
Alors que la seule chose que peut faire Jean Castex pour rassurer les Français, c'est de démissionner, enfin. Et pour rassurer la culture, Roselyne pourrait y aller aussi. C'est des solutions toutes simples. Je propose en vrac. Hein,
bon,
je
mais revenons au médical et au vaccin AstraZeneca. Pour l'instant, il va plus être suspendu, hein, en France et dans d'autres pays d'Europe.
Ben ça, oui, parce qu'on a mesuré,
il est sûr, voilà,
le bénéfice bénéfice-risque. Voilà, oui. Il faut toujours mesurer le bénéfice-risque. C'est de, pareil dans toutes les professions. Hein. Moi, je vois quand j'ai une très bonne vanne sur l'islam, eh bien, je mesure le bénéfice-risque. Voilà. Et je fais un petit conseil de défense. On se réunit à deux avec mon courage et à l'unanimité. Eh bien, on décide, eh bien, allez, allez, on y va. Osons. Faisons une vanne sur la pédophilie chez les cathos. Oh. Et tant pis si ça doit te coûter un mauvais papier dans la croix.
Ouais, ça vous fait moins flipper, ça. C'est ça, c'est ça. Philippe, il y a une étude démographique qui a établi qu'une partie des morts du Covid seraient malheureusement de toute façon décédées d'une autre cause. Oui. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas.
Voilà, on n'est pas surpris. C'est comme quand on parle de la mortalité en EHPAD. Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive d'autre dans ces établissements ? Des naissances ? Qu'un pensionnaire batte le record de saut en hauteur de Renaud Lavillenie avec sa béquille ? Enfin, non. Puis je vais vous dire ce qui me dérange, Thomas. Oui. Il y a une espèce de snobisme maintenant à avoir un papy ou une mamie qui est mort du Covid. Une coquetterie, voilà. Il y a même des gamins qui mentent à l'école. Ils ont honte de dire que leur mamie est morte de vieillesse. Ah, honte, sa mamie, elle est morte de vieillesse. Non, même pas vrai, elle est morte du Covid. Ah ouais? Et quel variant? Bulgare? L'autre, il fait « Ah bon, ok, parce que faut vous dire que les enfants sont nuls en épidémiologie, ouais. Surtout en province, ils sont aussi cons que leurs parents. »
Bon, je crois qu'il nous reste à peu près trois auditeurs, voire deux, le troisième vient d'éteindre. Finissons donc sur une note positive. Les autotests vont arriver la semaine prochaine, dès ce week-end en pharmacie d'ailleurs, et un peu plus tard dans les supermarchés.
Alors, en fait, maintenant, le gouvernement a un nouveau mot d'ordre, c'est « démerdez-vous ». Autotest.
Le fameux « démerdez-vous ».
Auto-vaccin, démerdez-vous. Maintenant, il faut quand même inciter les gens à acheter ces autotests. Ils vont peut-être en mettre, pourquoi pas, dans les boîtes de céréales, ce serait bien. Découvrez les toutes nouvelles Cocovi Pops de Kellogg's. De bonnes céréales fourrées au chocolat avec à l'intérieur, en cadeau, un autotest. Apprends que tu as le Covid en t'amusant.
Papa, j'ai le variant anglais et moi le brésilien.
Bravo, les enfants. Et merci, Cocovid Pops.
On adore Cocovid Pops.
De Kellogg's. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on va faire du temps qui reste, les amis? Je vous propose de faire du sport. Allez. Samedi soir, 24 heures de sport. J'ai dit du mal de la province. Je retire parce que c'est une opération qui est faite en province. 24 heures de sport pour Léo, c'est sur Insta. C'est plein de profs qui vont faire du sport pendant 24 heures. Body, Zumba, machin, du stretch, c'est non-stop de samedi soir à dimanche. Alors c'est gratuit. On fait du sport et après il y a une petite cagnotte.
Léo, c'est une association qui lutte contre le cancer
pédiatrique.
Et cette association a un parrain très efficace.
Exactement.
Et c'est des
profs de Lille, de Marseille, de Cannes, d'Antibes, de toute la province dont je me suis moqué, donc je retire tout.
Ça s'appelle
Bravo à Pierre, Élodie, Benjamin, Léo. Tous les professeurs de sport.
Merci à vous, Philippe, on vous retrouve samedi soir.
Oui. Je ne sais pas si vous serez confiné ou pas.
Je serai chez vous en Zoom avec un filmé en contre-plongée, on verra votre menton. Allez, merci beaucoup.
J'attends avec vous.
Dans 20 minutes, l'intervention du Premier ministre Jean Castex, que vous pourrez donc suivre en direct sur RTL, comme nous l'a dit le professeur Cabrivière. Là, c'est un vrai professeur, le professeur Philippe Amouyel, qui nous rejoint. Il est épidémiologiste.
RTL Soir.
Thomas Soto,
RTL Soir.
Il est épidémiologiste, professeur de santé publique au CHU de Lille. Il est aussi directeur de la Fondation Alzheimer, Philippe Amouyel, et l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Philippe Amouyel.
Bonsoir.
On a appris il y a quelques heures, en fin d'après-midi, que la vaccination avec le vaccin AstraZeneca allait pouvoir reprendre. Il est sûr et efficace, a dit l'Agence européenne du médicament. Donc cette fois, les choses sont claires, nettes et précises. Qu'est-ce que vous retenez, vous? Le fait qu'on va pouvoir reprendre la vaccination ou le doute que cet arrêt momentané a pu instiller dans les esprits?
Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un processus qui est habituel, ce genre d'événement. L'idée, c'est justement de contrôler. Alors d'habitude, on n'en entend pas parler dans la population. C'est fait pour tous les nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché. Mais là, vu le contexte, on en a parlé. Et la conséquence, la plupart du temps, c'est qu'il ne se passe rien et qu'on peut continuer à utiliser ce vaccin. Et c'est vraiment important parce que c'est le seul, pour le moment, avec lequel on puisse faire vraiment de la vaccination de masse. Mmh. Faire vacciner par les médecins, par les infirmières, par les pharmaciens.
Mmh. On entend votre enthousiasme, mais qu'est-ce que vous dites à ceux chez qui la défiance a grandi, ceux qui doutent ce soir, qui disent bah, « forcément, il y a un loup, forcément, il y a quelque chose ».
La seule chose qu'on peut leur dire, c'est de voir ce qui s'est passé, par exemple, au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni traversait une vague absolument terrible au mois de décembre. Ils ont vacciné près de 12 millions de personnes avec ce vaccin. Ils ont vaincu cette vague. Ils sont en train d'avancer sur la même voie qu'Israël actuellement, grâce à ce vaccin.
Donc il a fait ses preuves.
Il a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays.
C'est pas de la théorie, c'est de la pratique.
C'est de la pratique.
C'était une erreur de stopper cette vaccination, même pour deux jours ?
Je crois que c'est une question politique, c'est pas une question scientifique. Sur le plan scientifique, on le fait, je vous dis, pour d'autres médicaments, on n'en parle pas. Là, on en a parlé, un pays s'est déclenché, et puis il y a une espèce d'effet domino psychopolitique qui a entraîné la suspension en France, alors que le, mardi, le lundi soir, M. Castex et M. Véran avaient bien dit non, on continue. Et ça, c'était une position à tenir.
On parlait vaccination avec l'invité précédent, Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, département très durement touché, notamment en termes de mortalité. Et il a suggéré qu'on change les règles de vaccination et que peut-être on vaccine par catégorie socio-professionnelle, qu'on vaccine les premières, les deuxièmes lignes, comme on dit, même si elles sont beaucoup plus jeunes que ceux qui ont droit à un vaccin aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est une bonne idée, ça ? Il faut réfléchir à ça ?
Oui, je pense que c'est important. Il y a deux choses à voir. Il y a d'abord mettre en place une infrastructure qui nous permette de faire 400 000 à 500 000 vaccinations par jour. On peut y arriver. Avoir suffisamment de stock. Et à ce moment-là, vacciner en fonction des priorités professionnelles. Non, on vaccine en fonction des priorités sanitaires, mais vacciner en fonction des priorités professionnelles.
Donc, et plus seulement avec l'âge comme critère.
Exactement. Et surtout, vacciner tous ceux qui le veulent le plus vite possible.
Et ça, donc, vous dites que c'est quelque chose qu'il faut revoir. Il faut revoir les règles.
Alors, ce n'est pas forcément revoir les règles, il faut les adapter. Ces groupes ont été définis par l'HAS, par la Haute Autorité de Santé. Il suffit peut-être de déplacer les ordres.
Philippe Amouyel, on attend dans quelques minutes les annonces de Jean Castex. Qu'est-ce que vous attendez ou qu'est-ce que vous redoutez de ces mesures ce soir ?
Alors, je crois qu'on est à un point de l'épidémie où il est indispensable de prendre des mesures restrictives un peu poussées. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le virus circule à un niveau trop élevé actuellement. Mmh. Ça génère des nouveaux variants. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Ça va être compliqué par la suite. La deuxième raison, c'est parce qu'on a les réanimations qui sont en train de se charger. Et ça, on s'y attendait pas. On l'avait pas vu venir, mais c'est à cause de la plus grande gravité du variant britannique qui a pris la dominance maintenant.
C'est ça notre gros problème aujourd'hui, c'est le variant britannique ?
Ah oui, c'est le variant britannique. Le changement de caractère de l'épidémie, il vient du fait que, à partir de la troisième semaine de mars, on avait projeté que le variant britannique deviendrait majoritaire en France. On y est. Et on en a les conséquences actuellement.
Sauf qu'on se disait que ce variant britannique, il était plus contagieux, mais qu'il n'était pas plus dangereux. Est-ce qu'on est toujours là-dessus ou est-ce qu'aujourd'hui on se dit, tiens, il est peut-être plus dangereux que le précédent ?
Alors, en effet, à l'époque, il y avait apparemment un danger de 20 à 30% augmenté. On se disait, ben, comme il contamine plus, il y a plus de monde, et au prorata, c'est peut-être plus grave, etc. Sauf que là, il y a une étude qui est sortie il y a à peu près 15 jours par les Anglais, qui ont fait une étude en population, pas uniquement chez les gens hospitalisés, mais les gens en ville, et qui montre que le risque de mortalité est augmenté de 64% avec ce nouveau vaccin, nouveau virus.
Donc il est 64% plus mortel que le précédent. Ce qui explique nos problèmes en réanimation et ce qui explique la surcharge dans les services.
Et le décalage entre le niveau d'hospitalisation et le niveau de réanimation qui sont dans l'ordre et proportionnel, là, on hospitalise plus en réanimation, probablement parce que les formes qui arrivent, ils sont beaucoup plus sévères tout de suite.
Alors je reprends vos mots, vous avez dit, il faut prendre maintenant des mesures plus restrictives. Quelles doivent être ces mesures ? Quelles devraient être ces mesures d'un point de vue médical ? Je ne vous demande pas de faire de la politique.
Si on regarde l'étude qui a été republiée par Pasteur et par la Caisse nationale d'assurance maladie, où on regarde où on se contamine, parce que c'est là qu'il faut essayer d'avoir une action. On couvre un certain nombre de champs avec le couvre-feu de 18 heures. Il y a un champ qui reste libre, c'est le week-end. Le week-end, certes, il y a un couvre-feu, mais entre 6h du matin et 18h, vous pouvez aller où vous voulez, grosso modo, ce qui est important par rapport à la liberté d'action. En revanche, c'est là que se rencontrent les familles, c'est là que se rencontrent les repas, c'est là que se rencontrent les amis ou les sorties en groupe, et c'est ça qu'il faudrait contrôler parce que le virus circule énormément dans cette population.
Pour dire les choses clairement, vous souhaitez au moins un confinement du week-end pour les régions les plus touchées, que sont l'Île-de-France et les Hauts-de-France ?
Exactement.
Confinement du week-end, plus couvre-feu la semaine.
Plus couvre-feu la semaine, tout à fait.
Compte tenu de la situation actuelle et de cette tension très forte sur les services de réanimation, normalement, il va falloir combien de temps pour alléger un peu la pression avec ce genre de mesures ?
Même si on prend une mesure...
Parce que là, on voit des chiffres qui font peur. Hein. Pardon, on voit 101, 102%, 125% dans les services de réanimation.
Il y a toujours une latence. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est les chiffres... Les mesures vont agir sur la contamination... En revanche, il faut 2 à 3 semaines pour qu'elles agissent sur les hospitalisations et les hospitalisations en réanimation. Donc, c'est bien, on espère bloquer la courbe. Il y aura probablement quelques rémanences qui vont faire que ça va continuer à augmenter. Puis, ça stabiliser, diminuer, mais il va en avoir 3 semaines difficiles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on prend cette décision maintenant, on avait, comme la première fois, quelques lits qu'on pouvait libérer. Si on les bloque tout de suite en attendant trop longtemps, là, on va réellement être complètement débordé. Et les annonces du directeur de la PHP en particulier vont tout à fait dans ce sens. On prend vite des mesures parce que sinon, après, ce ne sera plus possible.
On prend vite des mesures et donc on en a au moins pour 2-3 semaines avant d'en sentir les effets. Hein. C'est ce que
pour
vous
toutes
dites.
Les mesures qu'on prend en général, que ce soit un confinement complet ou un confinement partiel.
On parlait tout à l'heure du variant anglais, enfin dit anglais de ce coronavirus. Il y a aussi un variant breton qui a débarqué cette semaine. Est-ce qu'il vous inquiète celui-là, le variant breton ?
Alors, ce n'est pas le variant breton qui est inquiétant, c'est le fait que ce qu'on redoutait est arrivé, c'est-à-dire qu'à force de circuler en France, on a des variants qui apparaissent sur le territoire français. Alors, ce variant breton, on ne sait pas encore ce qu'il fait, mais il a une petite particularité, c'est qu'on ne le voit pas. Parce que les systèmes de PCR, des outils de détection, on n'arrive pas à l'identifier. Donc, on est obligé de faire des choses un peu plus compte. Donc, on pourrait très bien avoir des gens qui ont un syndrome grippal, on fait le test, on dit bah, « ce n'est pas le Covid », et ils continuent à transmettre. Donc en ça, il est légèrement dangereux, mais il faut mieux le connaître maintenant.
C'est le côté agent contaminateur masqué, en fait, qui est inquiétant sur le variant breton. Et puis il y a les autotests, puisque vous parlez de se tester, qui vont arriver sur le marché à partir de la semaine prochaine. Ça sert à quelque chose, ça, ou pas ?
Alors oui, parce que si on veut baisser le niveau de contamination, il faut absolument isoler les gens qui transmettent le virus. Il y a bien sûr ceux qui sont positifs, qui vont devoir se faire isoler, mais il y a ceux qui sont positifs, qui sont asymptomatiques, qui ne se font pas tester. On ne peut les identifier que dans le cadre d'un dépistage de masse, qui n'est pas la solution retenue pour le moment par le gouvernement, on ne sait jamais. Du coup, pousser les gens, quelque part, à aller s'auto-dépister, maintenant que c'est des tests avec une meilleure acceptabilité, ça va permettre, un peu comme ce qu'on a fait à Noël, ce qu'on avait poussé les gens à aller à Noël, de limiter cette contamination.
Vous dites avant d'aller déjeuner chez la famille ou machin, on fait le test, mais on le fait quand ? On le fait 10 minutes avant ? On le fait la veille ? On le fait quand, ce test ?
Quand on l'a sous la main, qu'on vient de l'acheter dans un supermarché, on peut le faire à la limite quand on veut. Ouais. Juste avant, pour aller voir si on est contaminant. Ce qui est important, c'est cette contamination. À ce moment-là, on n'a plus à prendre rendez-vous, donc c'est beaucoup plus facile, et c'est relativement acceptable. Et ça responsabilise surtout chacun d'entre nous pour prendre en charge soi-même cette notion d'isolement qui va être nécessaire ensuite.
Merci professeur Amouyé. Je vous propose que vous restiez avec nous et peut-être qu'on débriefe avec vous les annonces gouvernementales après 19h.
Avec plaisir.
Eh bien, tout à l'heure. Alors, merci beaucoup. Demain, ce sera la journée du sommeil. Eh bien, voilà. On va enfin pouvoir se reposer. Julien Molcou arrive avec la culture de l'actu.
RTL Soir.
Thomas Sauto.
RTL Soir.
C'est sympa.
Ben voilà, demain, ce sera la journée internationale du sommeil. Et donc, Julia Molcou a décidé de faire une chronique paresseuse ce soir.
Vous allez voir.
Bonsoir, Julia.
Bonsoir, Thomas. Le sommeil est pour l'ensemble de l'homme ce que le remontage est à la pendule. Arthur Schopenhauer. Simple, basique.
Dors, petit homme, plus tard tu seras.
Comme la Belle au bois dormant, à Saint-Exupéry et son petit prince qui bâille devant le roi, en passant par Baudelaire, le sommeil est partout dans la littérature. Ça, c'est la Belle au bois dormant de Tchaïkovski.
Chaque matin est une petite jeunesse, chaque coucher une petite mort.
Ah tiens, vous aussi vous aimez Schopenhauer ?
Non, je sais
ça,
lire.
Ça c'est drôle. Bon, cela dit, une fois encore, il a raison. Depuis l'Antiquité, on rapproche le sommeil de la mort. D'abord, par une analogie visuelle que vous allez comprendre assez vite. Blanche-Neige dans son cercueil de verre, qui semble simplement endormie. Et puis, ce lien entre mort et sommeil est lié aussi à de nombreuses croyances philosophiques et poétiques selon lesquelles l'âme se détache du corps, permettant aux rêveurs d'accéder au divin. Mais le problème avec le sommeil, c'est qu'il ne vient pas toujours quand on l'appelle. Le souci, le sommeil ne s'abat jamais, disait Shakespeare, mais c'est finalement à Proust qu'on doit le grand livre de l'insomnie, avec Du côté de chez Swann, dans lequel le narrateur voit dans l'insomnie une position privilégiée. Pendant que les autres dorment comme des bûches, eh ben lui il pense, il réfléchit. Et il réfléchit à quoi ? Eh bien, au bienfait du sommeil notamment. Alors donc il y a ceux qui ne dorment pas, mais il y a aussi les autres, ceux qui dorment trop.
Je ne suis pas comme tout le monde. Je suis né avec un vice de fabrication.
Il semblerait que tu aies un petit problème de sommeil, c'est cela, Gus ?
Je dors tout le temps, c'est une maladie.
Voilà, Narco, ou quand Guillaume Canet jouait donc un narcoleptique à l'imaginaire inconscient débordant.
Bon, mais le sommeil dans les chansons, ça donne quoi ? On a entendu Claude François, mais il n'y a pas que ça quand même.
Alors, il y a de gros tubes, comme Fais dodo, colle à mon petit frère, ou le non moins célèbre Dodo, l'enfant d'eau. Sinon, il y a Benjamin Biolay qui n'a pas sommeil.
Le cœur brisé, le corps endolori, je recherche le vertige infini. J'ai gâché tous les sels de la vie, je n'ai pas sommeil.
Et puis, il y a Étienne Dao qui, lui, ne veut plus se réveiller parce qu'il n'y a que dans ses rêves que l'autre est encore là.
J'aimerais que cette nuit dure toute la vie. En partant, tu m'as mis le cœur à l'envers.
Enfin, last but not least, celui qu'on attend depuis au moins 4 jours, bah c'est Jean-Jacques Goldman.
Ah bah enfin.
Jean-Jacques Goldman, enfin, en 84, sortait son troisième album Positif.
Je sais quelle chanson vous avez parlé.
Et dans cet album, il y avait...
Dors, bébé, dors. Évidemment.
Dans laquelle il s'adresse à ses enfants.
Oui.
Il sait qu'ils vont grandir. Quand le soleil sera là, vous partirez parce que c'est comme ça. Mais en attendant, il veille sur leur sommeil comme eux, sur ces nuits blanches.
Dors, bébé, dors. C'est perdu sur son chemin. Il nous reste quelques heures avant que la nuit ne meure.
C'est presque vrai.
Vous savez pourquoi Jean Castex a décalé sa conférence de presse?
Mais pour cette chronique.
C'est pour pouvoir écouter Dors, bébé, dors.
Mon amour dort, pleure, dort.
Je crois qu'on a une petite pub avant la météo et après on remet Dors, bébé, dors avec Peggy, ok? La petite pub, hop!